Mohsen avait la sensation d'être arrivé tout au bout de sa vie, une impression de vide, de néant. Toutes les valeurs qu'il avait portées jusque-là s'étaient dissipées les unes après les autres, et il se retrouvait nu, persuadé d'avoir manqué le bon chemin quelque part, d'être égaré dans quelque obscur labyrinthe. 20 ans dans la police et les apparences tombent les unes après les autres. La réalité de cette société corrompue s'était dévoilée peu à peu. Il avait cru en la justice, il avait cru être utile à son pays, à la société, à l'humanité, mais son idéalisme s'était dissipé comme un rêve rose-bonbon, un rêve d'enfant. Son sentiment d'exil s'était amplifié avec le temps. Il ressentait presque en permanence une impression d'étouffement, comme s'il n'était pas sur la bonne terre. Ce monde ne pouvait pas lui offrir ce qu'il recherchait vraiment. Un souffle de nostalgie le portait vers un lointain mal défini. Il aspirait à autre chose, une autre vie, sans vraiment savoir laquelle. Alors, il avait repensé à ce que lui avait dit son ami Raïs il y a longtemps. Il existe, quelque part, une terre de lumière, une terre des vivants. Raïs avait de graves ennuis avec la police politique de l'époque. Il revit le visage plein de finesse de Raïs, son sourire qui respirait la plénitude. Comme toute cette période lui semblait lointaine, quasi inaccessible, elle appartenait à une autre vie. Et pourtant, il se la rappelait parfaitement. Cet ami lui avait expliqué que c'était une tradition familiale. Il se transmettait cette croyance en la terre des vivants depuis des générations. Était-ce une localité géographique, un univers parallèle, le symbole de quelque réalité indicible ? Malgré sa curiosité, il n'avait pas réussi à en savoir plus. Effectivement, cet ami avait disparu quelques semaines plus tard. Avait-il trouvé cette terre des vivants ? Avait-il été arrêté et enlevé par la police politique, comme cela se pratiquait à l'époque ? Il n'avait jamais su. Il aimait cette expression « terre des vivants ». Elle impliquait que celle où il vivait présentement était une terre de morts, une terre de fantômes, des fantômes qui faisaient la guerre à d'autres fantômes. Raïs avait touché un point essentiel. Que cherchait-il sinon une terre des vivants ? Comme une réponse à son sentiment d'exil. Une terre où chaque instant serait totalement, pleinement, vivant, débordant de cette sève qui lui manquait tant. Mais était-il digne d'une telle terre, d'un tel monde ? Il avait enquêté comme on le lui avait appris à l'école de police, longuement, minutieusement. Il avait surtout surpris des rumeurs, des bruits couraient dans la vieille ville, colportés par des artisans soufis du bazar. La terre des vivants était là, présente, prête à nous accueillir. Mais nous ne la voyons pas. Un jeune tisserand qui appartenait à une confrérie lui avait parlé plus longuement un soir. Selon lui, la terre des vivants était inaccessible car notre cœur était tourné dans la mauvaise direction, vers l'extérieur, habité par des préoccupations mondaines. Mais si notre cœur se retournait vers l'intérieur, alors nous pourrions découvrir la terre des vivants. Cependant, Mohsen était un homme simple, et toutes ses explications lui semblaient vagues, mystiques et finalement incompréhensibles. Il s'était intéressé au soufisme dans sa jeunesse. Il avait eu de longues conversations avec des amis qui faisaient partie de confréries, mais il avait perdu la foi. Ses fréquentations, son existence quotidienne l'avaient asséché, détourné de ses amis. Comment croire en cette terre des vivants ? Il savait par expérience que les rumeurs sont souvent fausses et il désespérait de connaître la réalité de cette terre mystérieuse. Un jour, il se trouvait dans une maison de thé près de la grande mosquée, une boutique traditionnelle comme il en avait connue dans son enfance, enfumée et bruyante. Il remarqua un individu assis sur un banc de l'autre côté de la salle. L'homme le fixait de manière inquiétante. Il avait un œil bleu, presque translucide, comme si on lui avait greffé une aigue marine à la place de la pupille. Il était vêtu à l'ancienne, d'un vaste pantalon serré aux chevilles, d'une chemise de toile beige et d'un gilet tissé. Il n'avait pas l'allure d'un honnête retraité, plutôt celle d'un voleur, un de ces marginaux qui hantaient le centre-ville à la recherche de touristes, sans méfiance. Mais la fixité du regard n'était pas celle d'un voleur. Il s'interrogeait sur l'identité de l'homme. Peut-être était-ce un indicateur au service des gardiens de la Révolution et il préféra sortir du salon de thé où une musique disco-indienne assourdissante faisait vibrer les murs et les tables. Dehors, il s'aperçut que l'individu le suivait. Que lui voulait-il ? Il était inquiet. Un groupe de militaires en uniforme discutait un peu plus loin. Ils marchaient lentement, en réfléchissant quelle stratégie suivre pour savoir ce que l'homme lui voulait. Une voix légère aérienne, un murmure à peine audible. « Ne vous retournez pas, continuez d'avancer, des caméras de surveillance nous observent. » Un silence, puis à nouveau la voix. « Je dois vous parler, nous allons aller dans la mosquée, là nous serons tranquilles. » Le lieu de culte s'ouvrait sur la droite. Une large porte à deux battants, verte. Sur les deux côtés, quelques vieux mendiants, stationnés quasiment en permanence. Il retira ses chaussures et pénétra sur le tapis. Il s'assit en tailleur contre un pilier et attendit. L'homme le rejoignit et se posa à côté de lui. « Je sais que vous vous appelez Morsen Kachani et je sais aussi que vous cherchez des renseignements sur la terre des vivants. »« Comment savez-vous cela ?»« Je le sais, tout se sait dans le quartier. » L'homme au regard inquiétant se pencha comme pour une confidence. « Vous vous sentez prêt pour le grand passage vers la terre des vivants ?»« Le grand passage ?» C'était la première fois qu'il entendait ce terme. « Que signifie cela ?» Il répondit oui, un peu au hasard, avec une assurance qu'il n'avait pas. Alors l'homme lui donna une adresse qui se trouvait dans une banlieue lointaine. Il l'inscrivit avec application sur un petit carnet et arracha la page. Il expliqua « Là-bas, on effectuait le rituel du passage et le grand départ » pour la terre des vivants. L'homme avait l'air sérieux, sûr de lui. Il disparut brusquement, comme il était apparu. Qui était-il ? Une présence maléfique ? Peut-être un djoun, un de ces êtres de feu qui viennent parfois se mêler aux affaires des hommes ? Toute la nuit, il remua des pensées inquiètes. Il s'interrogeait sur sa vie, son désir de quitter cette existence qui lui pesait. La terre des vivants l'attirait comme une pierre d'aimant attire le fer. Elle était ce nord magique qu'il sentait parfois vibrer dans son cœur. Une sorte d'épreuve pour connaître la réalité de son désir de franchir la porte des apparences. Le lendemain, sa décision était prise. Plein d'inquiétude, il prit le bus pour cette banlieue lointaine. Le ciel était clair, les sommets blancs étincelaient derrière les rangées d'immeubles. Il sentait comme une lueur de printemps derrière le regard des femmes. Il arriva sur une place bordée de platanes. La rue se trouvait un peu plus loin, sur la droite. À mesure qu'il approchait de l'adresse donnée par l'homme, il sentait l'appréhension croître en lui. L'adresse correspondait à une belle villa enveloppée de grands cèdres. Un homme l'attendait en haut des marches. L'homme le fit entrer dans une grande pièce au sol couvert de tapis et de coussins. Ils s'assirent de chaque côté d'une table basse. Une vieille femme vint leur servir du thé. Ils restèrent silencieux un moment. L'homme le fixait avec attention comme s'il voyait quelque chose derrière lui, au-delà de sa personne, peut-être une ombre invisible. Il parla brusquement comme s'il sortait d'un rêve. Pour pénétrer la terre des vivants, il faut que votre âme ait développé ses ailes de feu. Ce n'est pas votre cas, mais vous avez certaines qualités qui vous prédisposent au grand voyage. C'est peut-être une erreur de ma part, mais je pense que vous êtes apte à accomplir le rite de passage. Il ajouta qu'il ne pouvait rien lui dire de la terre des vivants. Il devrait l'expérimenter par lui-même. À quoi sert-il de discourir sur le goût du sucre auprès de quelqu'un qui n'en aurait jamais goûté ? Tout semblait simple. Trop simple. Quelle escroquerie voilait cette terre des vivants ? Et pourtant, le regard de l'homme semblait limpide, presque naïf, celui d'un enfant un peu espiègle, d'un homme pour qui la vie est finalement une farce sans conséquence, une vaste comédie, quelque chose d'enjoué, de gai, de ludique. Mais son métier lui avait appris à se méfier des apparences souvent trompeuse. Il accepta la boisson rouge et amère que l'homme lui tendait. Il accepta aussi les paroles étranges de ce dernier sur la femme ange aux dents de lumière qui l'attendrait de l'autre côté, le chien blanc qui le guiderait, les oiseaux de sagesse, la transparence du cœur, l'éblouissant labyrinthe de l'existence lorsque l'on connaît la terre des vivants. Puis l'homme l'accompagna au seuil de la pièce minuscule où se déroulait le rite. Un grand rideau voilait la pièce. Une lampe de cuivre diffusait une lumière rouge. L'ambiance était étrange, magique, propice au grand envol. Puis il fut seul avec le silence tout autour de lui, un silence presque parfait, comme s'il était loin de la ville et de ses multiples bruits. Il accepta la boîte où était épinglé le papillon nécessaire au rituel, comme l'homme le lui avait enseigné. C'était un magnifique macaon. Après un moment de recueillement, de silence, il récita les paroles de l'invocation coranique que l'homme lui avait conseillé de réciter. Il fixa les bandes noires auréolées de bleu et les ocelles rouges du grand macaon. Il semblait vibrer, palpiter tout entier, prêt à un nouvel envol. La mangie avait commencé à agir. Il sentait de moins en moins la présence du monde extérieur. Les sensations s'estompaient, s'effaçaient peu à peu. Maintenant, d'immenses vagues bleues l'emportaient hors de l'univers sensible. Il s'abandonnait à la substance mystérieuse qui agissait dans son sang. Il sentait une vibration naître au fond de sa poitrine. Bientôt, des visions affluèrent. D'abord, ce furent les îles oubliées au cœur de l'enfance, l'allée des marronniers près du dépôt d'autobus, les dômes bleus de la mosquée du quartier des Orfèvres, une grande maison voilée de cyprès dans une ruelle près de l'avenue Sepa, les jus de grenade pressés qu'il buvait à l'échoppe d'un marchand ambulant, les hommes qui fumaient de longues pipes aux fourneaux de terre cuite dans les maisons de thé de l'avenue Shah Abbas, le linge qui séchait sur la terrasse blanche, sa mère. C'est alors qu'il le vit. Il était aussi présent qu'un être de chair et tout son corps fut parcouru d'un frisson. Tout de suite, il fut frappé par la ressemblance. L'homme était comme un jumeau, un double immobile et glacé qui le fixait. Son corps fut auréolé l'espace d'un instant d'une lumière cristalline et l'homme inconnu ressembla à un ange inquiétant. Mais tous les anges ne sont-ils pas inquiétants ? Si tu me fais confiance, je te guiderai vers la terre des vivants. Après avoir prononcé ces paroles, l'homme disparut brusquement comme il était apparu. Cette vision lui sembla suspecte et il connut la peur. Une peur terrible qui semblait habiter chacune de ses cellules. Il se mit à trembler de tout son corps. Comment avait-il pu être aussi naïf ? La terre des vivants était évidemment un piège, tendu par une de ces polices parallèles au service du gouvernement. Se débarrasser des opposants des gêneurs en les empoisonnant, un poison qui tuait lentement ou rendait définitivement fou. Il tenta de se lever, son corps était paralysé. Un ultime sursaut et il réussit à ramper sur le sol au milieu des coussins. Il parvint à atteindre le rideau qui l'isolait de la pièce principale. Dans une ultime tension de tout son être, il s'apprêtait à se soulever lorsque, l'espace d'un bref instant, il fut ailleurs. Dans un éblouissement, il vit une montagne d'émeraudes, un ciel transparent peuplé d'oiseaux étranges, des étoiles en plein jour, des palais qui étincelaient au loin. En même temps, une joie immense le transperça. Il fut submergé par un bonheur qu'il n'avait jamais connu, comme une bénédiction qui efface d'un geste une vie de souffrance. Puis le voile retomba. La terre des vivants. Il avait entrevu la terre des vivants et il avait eu peur. Et il avait rejeté ce qu'il cherchait depuis tant d'années. Il l'avait touché du doigt. Maintenant, il était à nouveau dans les ténèbres. Les jours suivants, il tenta de retrouver la villa au milieu des grands arbres. En vain, comme si elle avait été effacée de la surface de la terre. Et pourtant, il se souvenait parfaitement du chemin à partir de l'arrêt de car. Il avait marché le plus lentement possible, en observant attentivement chaque maison, en détaillant chaque détail de la rue, mais la maison du vieil homme était restée invisible. Alors il parcourut le quartier en tous sens, repassant 10 fois, 100 fois dans les mêmes rues, mais il ne la retrouva jamais. Il savait que c'était sans espoir, mais il savait aussi que toute sa vie, il chercherait à retourner dans la terre des vivants. Il consacrerait son existence à revivre cet instant de plénitude qu'il avait connu. J'étais heureuse de vous partager ce conte soufi issu de la plume du Simorgue. Je le trouve particulièrement d'actualité. Alors je ne suis ni soufie, ni musulmane, mais je m'intéresse beaucoup à la spiritualité et au syncrétisme des religions, sans dogmatisme et sans idéologie. Et je trouve que ce conte est d'une actualité très surprenante, et je vous invite à le réécouter, à vous en inspirer, à vous en imprégner, car il dit une chose très importante, cette terre des vivants, vous l'avez compris, c'est notre intériorité sereine, celle que nous nous devons tous de créer, si ce n'est déjà fait, afin de bien vivre cette période de confinement. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine, je vous ferai un live sur une thématique à laquelle je n'ai pas encore réfléchi, mais qui sera très, très intéressante pour vous. Bon week-end.